Radio Kapi. Oh, Kapi.
Inauguration par le chef de l'État de l'usine Pepsi hier à Kinshasa, implantée dans la zone économique spéciale pilote de Maluku, la marque bénéficie des avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers. Alors que la ministre de l'Éducation annonce la rentrée des classes pour demain lundi 2 septembre, la synergie des syndicats des enseignants section Matadi boycotte la rentrée scolaire. Elle conditionne la reprise des cours par la réalisation de la promesse du gouvernement de payer 100 000 francs complémentaires aux enseignants. Christian Moleka est notre invité, l'analyste politique et coordonnateur de Politoscope, une plateforme spécialisée dans l'analyse de la cyberviolence verbale en RDC, est intervenu à un atelier vendredi pour sensibiliser une soixantaine d'étudiants sur la désinformation et les discours de haine. Bonjour à tous. D'abord, cette nouvelle, l'opposant Martin Fayoulou est rentré hier samedi à Kinshasa en provenance des États-Unis où il est allé participer à la convention des démocrates qui devait avaliser la candidature à la présidence de Kamala Harris. Au cours de son meeting au terrain Mambenga Njili, il a mis en lumière la faiblesse des aspects structurels et sociaux sous la gestion de l'Union sacrée. Il a évoqué entre autres la résurgence des conflits ethniques comme le phénomène Mobondo dans le Bandundu, la recrudescence des gangs urbains tels que les Kulunas à Kinshasa et la guerre persistante à l'est du pays. Il dresse un tableau sombre de la situation sociale marquée par une misère généralisée, la corruption endémique et le détournement des deniers publics. Je l'ai dit tantôt, inauguration hier samedi à Kinshasa de l'usine Varum Beverage Pepsi par le chef de l'État. La relance de cette marque dans le pays intervient plus de 20 ans après. Pour Louis Watum Kabamba, ministre de l'Industrie, aujourd'hui Pepsi RDC bénéficie des avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers qu'offre la zone économique spéciale pilote de Maluku. Plus de détails avec vous, Alain Hurung.
Selon Louis Watum, c'est dans ce contexte d'un climat des affaires plus assaini que la société Varum Beverage a été agréée comme entreprise dans la zone économique spéciale et a signé la convention des zones d'occupation avec l'agence des zones économiques spéciales en date du 6 mai 2022 pour la fabrication, l'embouteillage, la distribution des boissons non gazeuses, non alcoolisées, des jus des fruits, des boissons à base des fruits, des boissons énergisantes, de l'eau potable conditionnée, de l'eau minérale, des produits laitiers, des sirops, ainsi que tous les produits sous licence de la marque Pepsi. Aujourd'hui, c'est chose faite, dit-il. Les produits Pepsi sont maintenant une réalité sur le marché local. Ils peuvent être appréciés avec délectation par les Quinois et Quinoises qui sont toujours très exigeants quant à la qualité des produits qu'ils consomment. Pour rappel, plus de 20 ans après, le président Félix Tshisekedi ressuscite Pepsi en RDC, fruit de la diplomatie commerciale et économique menée en son temps par l'ancien ministre de l'Industrie, Julien Paluku, aujourd'hui ministre du Commerce extérieur. Et dans la politique de sauvegarde des industries locales, le ministre du Commerce extérieur avait signé une série d'arrêtés interdisant l'importation temporaire de quelques produits, dont les boissons gazeuses.
Dans la ville de Beni au nord Kivu, les habitants se plaignent depuis quelques jours des coupures intempestives du courant électrique. La société Énergie du Nord Kivu et ENKA, qui distribue l'électricité dans la ville, dit ne pas connaître les causes de ces coupures à répétition qui affectent les activités des habitants. Martial Papimukeba.
Depuis quelques jours, voire semaines, dans certaines parties de la ville de Beni, ces coupures surviennent de manière récurrente, plusieurs fois par jour, sans préavis ni explication de la société ENKA qui fournit l'électricité à la ville de Beni. Ces interruptions, qui durent parfois de longues heures, plongent des quartiers entiers de la ville dans les noirs à la tombée de la nuit. Elles perturbent non seulement la vie des foyers, mais aussi le fonctionnement des petites entreprises locales, notamment les salons de coiffure et les épiceries. Cette tenancière d'un restaurant témoigne.
Les conséquences, c'est que nous n'arrivons pas à stocker de la nourriture, surtout les vivres frais, parce qu'on ne peut pas stocker à chaque fois où il y a coupure. Presque chaque jour, on n'arrive pas à travailler.
De son côté, L'ENCA, Énergie du Nord Kivu, promet des améliorations. Philemon Moussavouli est son chargé de communication.
Les coupures que nous sommes en train de connaître, nous sommes à la recherche des origines. Une fois trouvées, la population va être encore un peu stable comme avant.
Certains habitats envisagent des solutions alternatives, comme les panneaux solaires, pour atténuer les effets de ces coupures. Béni. Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Au Maniema, le programme d'appui au développement rural inclusif et résilient PADRIR dote des engins roulants, motos de marque DT, des outils informatiques et mobiliers de bureau aux services étatiques partenaires à ce projet. La remise de cette dotation est intervenue vendredi en présence du gouverneur de province. L'objectif pour PADRIR est de rendre ces services plus opérationnels. Pour beaucoup plus de précisions, suivez ce reportage de Florence Kizalunga.
Parmi les services qui ont bénéficié de cette dotation des PADRIR IA, l'Inspection provinciale de l'agriculture, les services nationaux de vulgarisation agricole, les services nationaux des semences, l'Office des voies de dessertes agricoles, l'Inspection provinciale de développement rural, INERA Saloubezia pour ne citer que ça. Ils affirment que ça va améliorer leurs conditions de travail. Ramazan Irajabo est chef de division de l'agriculture et sécurité alimentaire.
Cette dotation est très très importante. Il y a longtemps, nous avons été en train de travailler. On n'a pas d'équipement au bureau. Comme il y a des mobiliers, il y a des motos, les outils informatiques, ce sont des outils très importants qui vont nous aider à aller en avant dans le cadre de ce que nous faisons, nous, comme service étatique.
Pour le coordonnateur national du PADRIR, l'objectif, c'est la mise en œuvre effective des activités du PADRIR. Damien Mouteba.
Vous savez, le PADRIR, dans son approche, on fait ce qu'on appelle le faire-faire. Ce sont les partenaires et au premier rang desquels on trouve les services étatiques. Donc, à l'ère d'autant de tous ces moyens, c'est pour leur permettre d'être à mesure de réaliser les activités qui répondent aux objectifs que le PADRIR s'est assigné.
L'autorité provinciale a émis le souhait de voir ce projet accéléré, surtout dans sa composante des infrastructures. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
La ministre d'État chargée de l'éducation nationale confirme la rentrée scolaire pour demain, lundi 2 septembre. Raïssa Malou le dit dans une vidéo postée sur le compte X de son ministère. Elle dit travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Santé pour protéger les élèves contre le monkeypox. Effectivement, au cours du conseil de ministres de vendredi, son collègue, le ministre de la Santé, a appelé les parents et les élèves au respect des mesures barrières pendant et après la rentrée des classes. Il s'agit notamment du lavage régulier des mains avec du savon ou un désinfectant et signaler tout cas présentant les symptômes du mpox. On écoute les propos de la ministre d'État à l'Éducation nationale, Raïssa Malou, proposée par Alain Irung.
Ce lundi 2 septembre est le jour officiel de la rentrée scolaire 2024-2025. Je me réjouis, ainsi que l'ensemble de mon administration, autant au niveau national, provincial que local, de commencer cette nouvelle année scolaire qui va être marquée par évidemment la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire qui reste valable. Et également, nous allons mettre en place un ensemble d'actions et de mesures pour agir sur la qualité de notre système éducatif. Ici, mesdames et messieurs, à cette veille de la rentrée, j'aimerais évidemment aborder la question de l'épidémie de mpox. Je voudrais vous rassurer qu'il y a une étroite collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté avec le ministère de la Santé pour s'assurer que nos écoles restent sûres, que les conditions soient assurées pour nos élèves au sein de l'ensemble de nos établissements. Le ministère de la Santé va donc diffuser un ensemble de messages que notre administration va relayer. Et je peux vous assurer que l'ensemble de l'administration est mobilisée pour s'assurer que tout se passe bien à partir de lundi et tout au long de l'année. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, chers enseignants, chers parents, chers élèves, une très bonne rentrée 2024-2025.
Mais pendant ce temps, la synergie des syndicats des enseignants de la province du Congo central déclare la non-reprise des classes demain, lundi 2 septembre. Elle conditionne la rentrée scolaire à la réalisation par le gouvernement de sa promesse de payer 100 000 francs en complémentaire aux enseignants. Cette décision a été prise vendredi à Matadi à l'issue de l'assemblée de restitution des contenus des assises tenues à Bibois dans la ville de Kinshasa. Dans sa déclaration, la synergie des syndicats des enseignants met en garde ceux et qui vont se désolidariser des autres. Nana Purich Mambou pour le reportage.
Ces enseignants venus des 10 territoires et 2 villes du Congo central scandent ces chants pour prévenir les gouvernements que l'air n'est plus aux promesses. Simon Siloulou est leur porte-parole.
Les enseignants du Congo central boycottent à ce jour où ils n'ont pas encore eu cette paye complémentaire, la rentrée scolaire, et nous disons au gouvernement, la mémoire des stockages des promesses est déjà pleine.
Dans sa déclaration, la synergie des syndicats des enseignants dit avoir dans son collimateur tous les enseignants qui vont se désolidariser des autres pour aller mendier auprès des élèves.
Et vos enseignants sans esprit qui profitent de la rentrée scolaire pour aller à l'école afin d'aller rationner les enfants sur les 203 francs qu'ils amènent, nous les remettons en garde.
Signalons qu'en cette même semaine, l'intersyndicale des enseignants du Congo central 1 a aussi annoncé les boycotts de la rentrée scolaire si les barèmes salariales fixés à $500 n'est pas appliqué. Matadi, Nana Plus Riche Mambou, Radio Okapi.
Dans un autre chapitre, dans la province du Bazuélé, les jeunes de la localité de Dingila dans le territoire de Bambessa ont décidé d'empêcher le déroulement de la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Cela à cause de la faible représentativité des autochtones dans la supervision de cette opération organisée par l'ONG IMA en partenariat avec la zone de santé de Ganga Dingila. Sur les 20 superviseurs recrutés, 5 seulement sont des Dingila. Cela a suscité le mécontentement des jeunes qui ont déposé un mémo aux autorités sanitaires. Le point de la situation avec Askin Zigbataero.
Au cours de la marche pacifique des jeunes de Dingila, un seul message sur le calicot. Fini l'importation à Bambessa. Ils s'insurgent contre le fait que les superviseurs de la campagne proviennent d'ailleurs, alors que le chômage bat son plein dans leur localité. Un extrait de leur mémo lu par le représentant des jeunes de Dingila.
Nous avons les cadres intellectuels qui devraient aussi assurer correctement la supervision. Faute de quoi, les moustiquaires ne seront pas distribués sur toute l'étendue du territoire de Bambessa.
Le ministre provincial de la Santé, M. Paulin Poussou, affirme que le processus de recrutement de superviseurs s'est déroulé dans les normes. Seuls les candidats ayant satisfait aux tests de recrutement ont été retenus.
Un incident lié à l'incompréhension par la communauté locale du processus de recrutement des acteurs en s'appuyant sur la représentativité locale majoritaire qui finalement retarde le déroulement de la campagne. La procédure de recrutement des superviseurs indépendants a suivi les étapes, entre autres l'appel d'offres au niveau de la province de Bazuélé, le test de présélection réalisé au niveau de la province. Le superviseur ayant satisfait aux différents tests précédents ont signé un contrat de partenariat IMA et déployé dans leurs zones de santé respectives sans discrimination de l'aspect genre et sexe.
Direction l'Ituri, où plus de 46 700 personnes déplacées des sites de Ramogi et Zi, dont le territoire de Mahagi, ont été assistées en cash par le Programme Alimentaire Mondial, PAM. Ces petits fonds, distribués à chaque famille selon la taille des ménages, vont leur permettre de subvenir à leurs besoins, surtout alimentaires et sanitaires, mais aussi réhabiliter leur logis. Les bénéficiaires saluent ce geste de générosité qui va aussi aider, selon eux, les parents à bien préparer la rentrée scolaires de leurs enfants. Le point avec Ezekiel Mouzelia.
Ce projet de distribution des caches, des vivres et des produits non alimentaires fait suite à une campagne d'action humanitaire lancée depuis plus d'une semaine dans la chefferie de Mokambo dans le territoire de Mahagi, exécutée par les ONG partenaires AGDEC et InterSource grâce au financement du Programme Alimentaire Mondial PAM. Ce projet vise à soulager le calvaire que traversent ces vulnérables en détresse depuis la suspension des aides humanitaires. Parmi ces déplacés figurent les victimes des récentes attaques du groupe armé Zaïr contre des positions des FARDC à Tchomia, Saigné Sabé sur les littorales du lac Albert. Cet appui vise à soutenir les familles des autochtones venues, entre autres des groupements Moussongwa, Dar et de Rovinga qui vivent dans la précarité depuis 3 ans à la suite des exactions des miliciens de la Codeco dans le territoire des Djougou. Selon le coordonnateur de la société civile locale, chaque ménage a, selon sa taille, reçu une somme comprise entre 39 000 francs et 100 000 francs congolais. Des fonds qui pourront leur permettre de s'approvisionner en nourriture, faire du commerce ou encore préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, des retours spontanés des personnes déplacées sont observés ces trois derniers mois. C'est ce qu'indique le nouveau rapport publié vendredi par OCHA. Sans plus de détails, entre mars et juillet 2024, OCHA parle plus de 383 000 personnes déplacées qui sont retournées dans leur village, dont quatre groupements du territoire de Rutshuru. Un notable de Rutshuru confirme ces retours. Il déclare que certains de ces retournés motivent leur retour par les difficiles conditions de vie dans les sites où l'aide humanitaire n'arrive parfois plus et leurs enfants n'étudient plus depuis 2 ans pour certains. Ce chef administratif parle cependant des obstacles auxquels font face ces personnes pour accéder à leur champ agricole. Il lance un plaidoyer aux belligérants. Il est joint par Denis Loukesso.
Notre crainte, c'est la décision de M23 qui interdit la population d'accéder aux champs de Kasali, de Kazaroho, de Kanyangiri aussi. Alors c'est cette saison culturelle qui est considérée comme une grande saison, pouvant aussi donner la chance à la population parce que c'est là où ils produisent beaucoup de haricots. Nous demandons au M23 de donner la chance à la population d'accéder aux champs des jours qui sont bien planifiés. Alors ils peuvent donner une autorisation d'aller aux champs pendant tel jour. Et tel autre jour ne peuvent pas aller au champ parce qu'ils vont mener des opérations là-bas telles que nous avons constaté, ils sont en train de les faire au niveau de Bouisha dans la contrée de Kiseguro. Nous aussi nous demandons, parce que nous sommes des agriculteurs, qu'on donne cette chance à la population aussi de Kazaroho, Kirumba, Kanyangiri, Kasali d'accéder au champ avec une autorisation bien planifiée afin de ne pas massacrer la population qui n'a rien avec ces opérations, avec l'implication des deux parties au conflit.
En bref, le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, suspend à titre conservatoire le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimbamboula. Cette mesure a été prise hier samedi à la suite des actes pris par le concerné et qui ont impliqué la police dans le déguerpissement des occupants de l'immeuble Kamoul Résidence et des diplomates français. Dans la même décision, le ministre de l'Intérieur suspend également à titre conservatoire le commandant de la Légion nationale d'intervention, le commissaire divisionnaire adjoint Mania Kabea.
L'invité.
Notre invité, c'est Christian Moleka, analyste politique et coordonnateur de Politoscope, une plateforme spécialisée dans l'analyse de la cyberviolence verbale en République démocratique du Congo. Vendredi, cet analyste politique a pris part comme intervenant à un atelier organisé par la MONUSCO à Kinshasa pour sensibiliser une soixantaine d'étudiants de l'Institut supérieur pédagogique sur ces enjeux. Pourquoi faut-il sensibiliser les étudiants sur la désinformation, les discours de haine? Quel rôle ces jeunes peuvent jouer pour assainir l'espace numérique congolais? Christian Moleka s'entretient avec Poli Mousalia.
Christian Moleka, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi est-il important d'après vous de cibler particulièrement des étudiants sur des questions liées à la désinformation et aux discours de haine?
Déjà parce que la jeunesse constitue la portion la plus importante de la population au Congo, mais également la portion la plus importante sur le numérique notamment. Et donc dans un environnement où le numérique prend de plus en plus de la place comme espace d'expression, si on veut toucher la portion la plus importante, il faut toucher les jeunes et donc les étudiants qui sont également les futurs décideurs. Parce qu'autant on forme la portion la plus importante, autant on prépare ceux qui demain prendront la relève pour la décision politique.
Peut-on dire que le milieu universitaire est un terreau fertile pour la propagation des fausses informations et des propos violents?
C'est un milieu propice à la rumeur. L'environnement universitaire est marqué par les rumeurs de tout genre. C'est un milieu également où peuples peuvent circuler très facilement les idées liées à la fois au nombre de la fréquentation de sites, mais également à la circulation des idées. Et donc, si on veut gérer les espaces des idées, on doit gérer les universités qui sont également des lieux de grande fécondité de la création. Et donc, si on sait féconder ces lieux-là, ça pourra participer à impacter plus grandement également la société.
D'après vous, Christian Moleka, quels sont les défis spécifiques auxquels les jeunes étudiants congolais font face dans un environnement en ligne marqué par la désinformation et parfois des propos violents?
Le grand défi, c'est la capacité à développer un sens critique. Il faut que nos jeunes développent la capacité à critiquer l'information. Tout ce qu'on voit n'est pas vrai, tout ce qu'on écoute n'est pas forcément vrai. Il faut savoir démêler le vrai du faux et donc développer la capacité à identifier l'infox, à faire le monitoring de l'infox pour que l'on ne soit pas manipulé par la mauvaise information.
Quelles sont les principales formes de désinformation et de discours de haine que vous avez répertoriées en milieu universitaire et de quelle manière ces contenus peuvent impacter la société congolaise dans son ensemble?
L'histoire nous a démontré qu'il y a beaucoup de mouvements universitaires qui sont partis d'infos, de rumeurs. Moi-même, en tant qu'étudiant, j'ai partagé d'ailleurs mon expérience en 2001. À l'UNIKIN, nous avons vécu un cas de rumeurs autour des frais qui a été l'origine des grandes émeutes. Et donc, si on veut gérer la quiétude au sein de l'université, il faut gérer également la capacité des étudiants à discerner les vrais du faux et à ne pas être manipulé par les grandes mobilisations. Ensuite, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a un vrai travail des manipulations de masse qui se met en place à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Et donc, nous avons des jeunes également qui sont exposés à cette manipulation plus politique. Et donc, il faut travailler à leur donner des capacités critiques afin qu'ils soient d'abord eux-mêmes des hommes assez stables, capables de s'informer en qualité, mais en même temps capables de ne pas relayer par leur propre responsabilité des fausses informations.
Oui, l'exemple que vous venez de citer est relativement ancien. Avez-vous des exemples plus récents qui illustrent les dangers des fausses informations, notamment en milieu universitaire?
Par exemple, on a discuté avec nos amis de l'ISP Gombe sur des rumeurs que des étudiants appartenant à telle ou telle catégorie ethnique étaient favorisés par rapport à d'autres. Des tels cas de désinformation sont à l'origine des tensions. On a également parlé de la collation, de l'activité de collation organisée récemment à l'université, où on a eu des cas de, je dirais, des fabrications des faux billets et qui a créé de la désinformation et qui a conduit même à des tensions entre différentes factions. Donc ce sont des cas documentés avec lesquels on a changé avec les étudiants pour leur permettre de mieux comprendre que c'est pas une réalité lointaine, qui est une fictive, mais une réalité réelle qui se passe autour d'eux et qui doivent apprendre eux à être des acteurs, je dirais, participatifs.
Comment voyez-vous le rôle des étudiants dans la lutte contre les discours de haine et la désinformation en République démocratique du Congo? Quels conseils vous leur donneriez pour qu'ils deviennent des acteurs de changement positif dans ce domaine?
Les jeunes ont un rôle majeur, comme je dis, qui sont les plus actifs. Et donc, ils peuvent déjà signaler cette capacité à signaler les mauvaises informations. Ils peuvent le faire, donc ils peuvent être des veilleurs sur web. Ils peuvent participer à couper la chaîne de transmission en refusant de partager les mauvaises informations, parce que cette chaîne de viralité se construit par le fait que nous participons tous à partager l'information. Et donc, dès qu'il est l'instant où il prend conscience qu'il peut signaler, qu'il peut couper la chaîne de transmission de l'information, il devient un acteur actif, d'autant plus qu'il ne produit pas la violence, et donc il participe à assainir un débat public sain sous l'espace. On peut ajouter également sur la citoyenneté numérique, parce que dès l'instant où j'arrête de former de la fausse information ou à dominer de la violence numérique, j'entretiens une citoyenneté numérique qui permet d'avoir un espace numérique assaini.
Christian Moleka, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Ainsi s'achève ce journal coordonné par Jacques-Yves Molimaï sous la supervision d'Alain Irung. Jean-Noël Mokondo était à la mise en onde. Merci de l'avoir suivi.